Cette portion de la parole de Dieu est enregistrée et distribuée par l'Église, grâce et vérité. Jésus promet à ses disciples, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Nous prions que vous soyez bénis et rendus libres par notre Seigneur Jésus-Christ au moyen de ce message. Bonne écoute!
Exode chapitre 1 et Matthieu chapitre 1. OK, un, deux. OK. Donc, j'ai commencé une série sur le fait que notre Dieu de l'univers voulait avoir une relation avec nous. Et j'ai parlé dans Genèse, j'ai parlé de la création, la manière qu'elle avait été faite. Et tout au long de la série, ça fait à peu près 3 ou 4 messages que je fais, on voit un Dieu qui prend des risques. Un Dieu qui rentre en relation avec l'homme, mais déjà, il crée avec la possibilité que l'homme puisse choisir d'aller loin de lui. Déjà, les paramètres de la création, c'est Dieu place quelque chose qu'on peut aimer plus que lui afin qu'on puisse choisir de l'aimer plus que toute autre chose, mais on peut choisir d'aimer ces choses-là plus que Dieu. Puis, il y a l'élément de risque déjà dès le commencement. Déjà, dans les premiers chapitres, on voit le meurtre d'un frère innocent qui plaisait à Dieu. On voit des choses qui ne se passent pas tout à fait comme ça serait supposé de se passer. Puis, quand on regarde nos vies, je trouve que c'est ça qu'on s'aperçoit aussi. Il me semble que je marche avec Dieu, il me semble que ça ne devrait pas m'arriver, il me semble qu'il y a des difficultés ou des choses qui... Il me semble, si Dieu est Dieu, pourquoi ces choses-là se passent? Et il y a des arguments contre l'existence de Dieu, justement. Si Dieu est si bon, il ne devrait pas vouloir qu'il y ait de mal. Puis si Dieu est si puissant, il devrait pas pouvoir, il devrait pouvoir arrêter le mal. Et il y a des grosses objections à propos de la nature de Dieu à cause de ça. Puis au début de la série, on a défini que Dieu était souverain pas dans le sens qu'il contrôle méticuleusement toutes les choses qui se passent dans l'univers, mais qu'il est souverain dans le sens qu'il est au-dessus de tout et qu'il a créé toute chose. Il est le commencement de toute chose, puis il est au-dessus de toute chose, puis il va finalement régner sur le chaos. Le chaos. Et donc, on s'aperçoit dès qu'on lit notre Bible que Dieu est loin de contrôler de façon méticuleuse toutes les affaires qui se passent dans le monde. Bien qu'il soit tout puissant, puis il pourrait tout arrêter, il pourrait tout faire bien rapidement. Et que Dieu, il ne contrôle pas de façon automatique, puis ça nous confond dès les premières pages de la Bible. On voit un ennemi qui vient tenter l'homme. Déjà, il y a un ennemi. Déjà, Dieu crée, puis il y a un ennemi qui est dans les parages. J'ai parlé du meurtre d'un frère innocent qui plaisait à Dieu, des anges qui viennent souiller la race humaine, et là, la race est tellement souillée qu'il faut qu'il y ait un déluge à la grandeur de la terre. Des traces qu'on voit un peu partout dans le monde aujourd'hui d'un déluge universel qui s'est passé. On voit un Dieu qui ne contrôle pas tout pour que ça se passe comme que lui il veut, mais on a lu dans un des passages qui dit « Dieu règne dans les cieux et il a donné la terre au Fils de l'homme. » Il a donné la terre au Fils de l'homme. Et donc, il a aussi donné des délégations à l'homme. Donc, il a dit « Regarde, c'est votre domaine, c'est votre royaume. Voulez-vous que je règne dedans? » Et donc, on ne voit pas un Dieu qui est en accord avec ce qui se passe. Déjà, là, au 6e chapitre, Dieu regrette d'avoir fait le monde. Déjà, on voit un Dieu qui regrette et qui n'est pas en accord avec la façon que l'homme a choisi de répondre. On voit aussi un Dieu qui agit en réponse de l'homme. Il regarde ce que l'homme va faire, puis selon ce que l'homme va faire, Dieu va agir avec comment l'homme agit. On a vu 2 caractéristiques fondamentales de ce Dieu-là, de ce Dieu souverain. Ce roi veut avoir une relation personnelle avec ses créatures. 2, ce roi-là a le droit d'être obéi. Mais son amour, il ne la forcera pas. Et le droit d'être obéi, il ne forcera pas, il ne créera pas des gens qui sont obligés de faire ce qu'il veut qu'ils fassent. Il va inviter, il va négocier avec l'homme, il va dire à celui qui veut tuer son frère, si tu agis bien, tu peux relever ta tête, tu sais, puis il va lui dire, tu peux dominer sur ton péché, il va négocier avec l'homme, mais il va laisser l'homme faire ses choix par rapport à son obéissance. Fait qu'on a passé pas mal de temps dans Genèse, fait que j'ai décidé de j'aurais pu continuer avec Jacob qui s'est battu avec Dieu, Joseph qui a été victime d'un complot de ses frères, puis que Dieu a fait tourner ça en son bien. J'ai dit, boy, tu sais, c'était... Et puis, on va faire un beau parallèle avec nos vies, puis dire, crime, pourquoi ça se passe dans ma vie? Pourquoi ça se passe dans ma vie? Puis d'essayer de voir comment Dieu, malgré le mal qui arrive dans le monde, dans nos situations, dans nos relations, comment Dieu peut transformer ça en notre bien. On a passé du temps dans Genèse, on a vu qu'avec Abraham, il voulait développer une relation de confiance, puis on dirait qu'il promettait des choses à Abraham, puis il tardait à les accomplir jusqu'à temps qu'il voie que dans le cœur d'Abraham, il y avait aussi cette confiance-là que Dieu pourrait le faire. Dieu, il veut pas juste, Dieu veut pas juste qu'on ait confiance en lui. Dieu, il nous regarde puis il dit, est-ce que je peux me fier sur toi? Peux-tu me fier sur toi, Jean-Claude, Ginette, Sylvie? Est-ce que je peux me fier en toi que tu vas croire que Dieu est fidèle? Et donc, à Abraham, ça y prend des années avant d'avoir ce qu'il a. Il lui a été promis, mais finalement, il va l'avoir. Et le titre du message aujourd'hui, puis là où ce que je vais continuer, moi, ça va être dans Exode que je vais continuer. Dieu fait avec ce qu'il a. Dieu fait avec ce qu'il a. On voyait quoi dans Genèse? Que Dieu avait un homme qui avait 100 ans, sa femme en avait 90. C'était dans le temps où le péché ne nous avait pas encore affectés au point où ce qu'on mourait plus jeune. Et Dieu va attendre qu'Abraham le croie. Puis au chapitre 17 de Genèse, c'est écrit que quand Dieu a dit à Abraham qu'il y aurait un fils dans son vieil âge, il est parti à rire. Puis dans le chapitre 18, il a répété encore, puis là, c'est sa femme qui est partie à rire. Le livre d'Hébreux nous dit, dans Hébreux 11:11, que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité, nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et qu'on ne peut compter. Fait qu'au temps où ce que le livre des Hébreux est écrit, la promesse s'est produite. Quelqu'un, après que ça soit... C'est facile de dire que Dieu était fidèle avant. Quand on regarde toute l'histoire, tu sais, on regarde l'histoire de notre sœur Louise, on dit, merci Seigneur. Tu sais. Mais combien de fois tu sais, on s'est appelé, puis on a prié, puis on a dit, hey, faut que tu sortes de là, c'est pas bon pour tes poumons. Tu sais, puis, combien de fois on a douté aussi que Dieu il arriverait quelque chose? Mais ici, Sarah avait ri, elle avait douté, voyons donc, tu sais, si je pourrais encore me payer le luxe d'être enceinte à mon âge. Tu sais. Mais le livre des Hébreux dit qu'elle a fini par avoir la foi, que Dieu, s'il l'avait dit, pourrait aussi le faire. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se tourner dans le livre d'Exode et dans le livre de Matthieu, parce qu'il y a dans ces passages-là un beau parallèle. Premièrement, dans Exode. Le livre d'Exode, il suit le livre de la Genèse, puis qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Il commence où ce que Genèse a fini, c'est-à-dire que grâce à Joseph, les frères de Joseph qui l'avaient trahi ont pu trouver refuge en Égypte et passer au travers une sécheresse, puis survivre, puis ils ont eu une place pour habiter qui s'appelle Goshen. C'est une ville, je pense, qui est au nord de l'Égypte. Et ils ont eu une place où ils ont pu grandir, prospérer, avoir des troupeaux et tout ça. Puis, ils étaient à part du peuple d'Égypte parce que le bétail, c'était quelque chose d'impur pour les Égyptiens. Fait qu'ils les ont comme laissé à part, tu sais. Puis, le livre commence, puis on ne voit pas Dieu vraiment. On ne voit pas le Dieu dire ceci ou faire cela. Par contre, ce qu'on voit, on voit des événements qui se placent, puis on voit Dieu à l'arrière-scène pour placer quelque chose, pour agir dans cette scène-là. Et ce que je veux qu'on voit aujourd'hui, c'est que Dieu regarde les actions des hommes, le temps dans l'histoire, puis il va agir en fonction de ce qui est en train de se passer dans l'histoire, en tant que Dieu souverain, en tant que Dieu capable de tout faire, mais au-dessus des hommes, il va agir en arrière-scène, puis il est tellement présent. Premièrement, le problème commence au verset chapitre 1, si vous avez votre Bible, au verset 8 de Exode. C'est écrit « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Et il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. » Le roi d'Égypte, c'est un nouveau roi. il n'a pas lu dans les annales, il n'a pas lu dans l'histoire qu'il y a un gars qui s'appelle Joseph qui a sauvé cette nation-là d'une famine, puis qui est devenu une puissance internationale parce que les gens venaient de partout pour aller chercher du grain à cause d'un gars qui s'appelait Joseph, puis à cause du Dieu de Joseph. Il ne connaît pas ça. Puis lui, il voit ces Juifs-là qui pustulent, le mot c'est vraiment pustuler, hein, qui est utilisé dans les versets précédents, ils pustulent, sont partout. Le peuple juif, pourquoi ils sont partout? Parce que Dieu a dit à Abraham, vous serez innombrables, je vais vous multiplier sur la surface de la terre. Et donc Dieu avait fait une promesse, puis Dieu était en train d'accomplir cette promesse-là. Puis le roi d'Égypte craint que la croissance numérique du peuple hébreu vienne contre lui. Il dit, s'il vient une guerre, ils vont se joindre avec l'ennemi, puis ils vont nous combattre. Fait qu'il craignait que ce soit un peuple de rebelles qui éventuellement saisirait l'occasion pour détruire sa puissance. Et ici, ce gars-là n'a pas connu Joseph, ni le Dieu de Joseph. Il a mis en oubli que Dieu les avait épargnés dans le passé. Il oublie qu'il est devenu une puissance au Moyen-Orient à cause de ça. Et ce que j'aimerais qu'on attire votre attention, c'est qu'il calcule et fait des plans sans considérer Dieu. Et ça, c'est l'histoire de souvent chacun d'entre nous, et c'est l'histoire de l'homme sans Dieu principalement, un homme qui fait des calculs sans considérer Dieu. Son plan au niveau guerre, au niveau stratégique, fait du sens d'une certaine manière. Il veut éviter une guerre, sans Dieu, ça fait du sens, mais si tu ajoutes Dieu dans l'équation, son plan devient folie. Avant, ça paraît un peu sage, son affaire, de dire, hey, et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il va se montrer habile envers les Juifs. Au verset 10, c'est écrit, « Allons, montrons-nous habiles à son égard et empêchons qu'il s'accroisse. » Premièrement, la vie va être tellement pénible qu'ils ne penseront pas avoir des enfants. Fait que faisons juste leur donner plus de travaux, puis ils vont oublier, ils vont dire, « Je ne ferai pas une famille dans un contexte comme ça. T'sais. C'est un monde de fous. Pourquoi j'aurais des enfants dans un monde de fous? » C'est un stratège. Si tu ne mets pas Dieu dans l'équation, c'est sûr que ce n'est pas moral, mais en même temps, c'est une stratégie. Et le principe que je veux apporter, c'est que l'homme sans Dieu fait des plans sans consulter Dieu. Ça paraît sage, mais c'est folie devant Dieu. Dans Jacques 4, 13, c'est écrit « À vous maintenant qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous y trafiquerons et nous gagnerons. » Vous ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou nous ferons cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses, c'est chose mauvaise que se glorifier de la sorte. Ici, le passage, Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus, il nous dit, dites pas que vous allez faire ceci, que vous allez faire cela. Faites pas de plan sans Dieu finalement. Parce que vous êtes une vapeur, puis Dieu peut retirer le souffle comme ça, puis ça peut être terminé pour vous demain. Donc, dites plutôt, si Dieu le veut, nous ferons ceci. Incluez Dieu dans vos calculs, incluez Dieu dans vos équations, dans vos décisions, incluez-le dans vos prières et vos problèmes, pour que, justement, votre sagesse humaine ne soit pas considérée comme une pensée orgueilleuse qui s'élève au-dessus de celle de Dieu. Ignorer ce que Dieu veut faire peut nous amener à lutter contre Dieu par nos pensées toutes naturelles. Pharaon, il dit, j'ai un problème, le peuple hébreu pustule. Penser sans Dieu, ça a fait de lui un homme qui était adversaire de l'œuvre de Dieu. Juste parce qu'il n'avait pas mis Dieu dans l'équation. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit à Abraham, tu vas devenir une grande nation, tu vas pustuler d'une certaine manière, tu vas te multiplier. Hein? Et donc, ignorer ce que Dieu veut faire dans ma vie, peut faire que je vais être l'adversaire de ce que Dieu cherche à faire dans ma vie. Qu'est-ce que Dieu veut faire avec Israël? Dieu veut faire grandir cette nation-là comme le sable qui est sur le bord de la mer et comme les étoiles qui sont dans les cieux. Il veut le rendre prospère. Et Pharaon, parce qu'il pense tout naturellement, puisqu'il n'inclut pas Dieu dans ses plans, il devient lui-même l'adversaire du Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ça ne marche pas. Les Juifs continuent à faire des petits. Ils sont sous esclavage, puis ils continuent à grossir comme peuple, puis ils continuent à grossir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Prochaine acétate, s'il vous plaît. Si on peut aller à la prochaine acétate. Un contrôle des naissances. Au verset 16, il nous est écrit, qu'il y avait des sages-femmes, et on disait à ces sages-femmes-là, quand vous allez voir que c'est un bébé puis que c'est un garçon, ben mettez-le à mort. Et donc, ces femmes-là, c'est pas pour rien qu'ils portent le nom sage-femme. Je pense que le nom leur a été donné peut-être par la suite. C'était des femmes sages. Et ces femmes-là ont décidé, ben, je vais en parler plus tard, mais ils ont court-circuité ce que Pharaon avait décidé. C'est des femmes de Dieu, c'est des femmes qui craignaient Dieu. C'est écrit dans le texte, c'est écrit, « Ils craignaient plus Dieu que les ordres du roi. » Et il y a des passages dans Deutéronome 32:10 à propos de quand Dieu a commencé avec Israël en tant que nation. C'est pas avec Abraham, c'est à partir du peuple d'Égypte, lorsqu'il est sorti du peuple d'Égypte, de l'esclavage d'Égypte, qu'il a dit, « Tu es mon fils. » Il l'a appelé son fils. Et dans Deutéronome 32:10, c'est écrit, « Il l'a trouvé, l'a entouré, en a pris soin, il l'a gardé comme la prunelle de son œil. » Et donc, puis ailleurs, dans Zacharie 2:8, il dit, « Celui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » Donc, Pharaon, en allant toucher aux enfants, mettait le doigt dans l'œil de Dieu. Littéralement, fatiguait Dieu en faisant ça. Et Dieu avait dit à Abraham, « Ceux qui te béniront, je les bénirai. Ceux qui te maudiront, je les maudirai aussi. » Puis lorsqu'on lit le livre d'Exode, on s'aperçoit que ce principe a été appliqué parce que Dieu avait fait des promesses. Mais on revient. L'opposition au plan de Dieu peut finir par servir Dieu. Autrement dit, Dieu, il est souverain, pas dans la manière qui empêche que le mal se passe. Mais malgré le mal qui se passe, Dieu finit par faire triompher le bien au travers du mal. Dans Psaume 76, verset 10, c'est écrit « La colère de l'homme te louera ». Pensez à ça. La colère de l'homme te louera. Il n'y a pas un passage qui dit que la colère de Dieu déplaît à Dieu, que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu dans Romains. Ici, ça ne veut pas dire que les choses que l'homme a fait par colère vont glorifier Dieu. Mais ici, le texte, la colère de l'homme te louera, ce n'est pas l'homme en colère te louera, hein? C'est la colère de l'homme te louera. Finalement, même les choses qui ont été faites contre, on regarde contre Christ à la croix, contre Joseph en Égypte, contre Abel, contre, ont fini. Éventuellement, Dieu qui est souverain est capable de prendre une poignée, visser ça après quelque chose qui est mal, puis le changer en bien. Et Dieu est capable de faire que même les choses qui ont été faites, qui venaient de la colère de l'homme, qui n'atteignaient pas la justice de Dieu, Dieu peut le prendre. Il peut faire ce sujet de louange. Pensez à Esther, il y avait un génocide qui était préparé, tuer tous les Juifs à une certaine journée. La colère de l'homme te louera. Qu'est-ce qui est arrivé? Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Celui qui avait planifié ça, c'est lui qui a fini sur le poteau. Et qu'est-ce qui est arrivé? Mardoché est élevé. Esther a été élevée. Les gens qui adoraient le Dieu d'Esther ont été élevés. Shadrach, Meshach, Abednego et la fournaise ardente, qu'est-ce qui est arrivé? La même chose, il y a un édit comme quoi, à la fin, il fallait adorer le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. C'est que Dieu, dans sa souveraineté, il y a des choses mal qui se passent dans le monde, mais Dieu est capable de tourner ça pour sa louange. Non pas qu'elle glorifie Dieu, cette colère-là, mais Dieu, quand il va avoir dit son dernier mot, même ce qui a causé la colère de l'homme va produire une louange que Dieu est capable de changer le mal en bien. Et ça, c'est ça qui me tient dans ma marche chrétienne avec Dieu. C'est que Dieu peut changer toute chose en bien à celui qui aime Dieu et qui est appelé selon son dessein. Les sages-femmes craignaient Dieu et ils ont déjoué un peu le plan du roi. Et ils ont dit, « Ah, les femmes juives, eux autres, ils accouchent bien. » Poup! Ça sort tout seul, mon affaire, c'est... On arrive, puis ils ont déjà accouché, tu sais. Fait que là, Dieu va utiliser ces femmes-là pour limiter le dommage qui est créé par Pharaon. Pourquoi? Dieu utilise qu'est-ce qu'il a. Et Dieu a regardé dans l'histoire des hommes, il a regardé là, en Égypte, puis qu'est-ce qu'il a vu? Des femmes bienveillantes. Des femmes qui craignaient Dieu, et il a dit, je peux faire quelque chose avec elles. Et regardez bien qu'est-ce que Dieu va faire au verset 20. Si vous avez votre Bible, au chapitre 1, verset 20, c'est écrit, qu'il leur fait du bien et les fait prospérer. Dieu dit, « Hey, je vote pour toi. Continue de même, c'est bon. » Exode 1:20, « Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple se multiplia et devint très nombreux parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. C'est drôle que Dieu, il ne fait pas juste comme des tas de cendres avec tous ceux qui veulent tuer les enfants juifs. Il ne va pas directement. Il regarde qu'est-ce qui se passe, il voit des femmes qui craignent Dieu, puis il dit, je vais les fortifier, ces femmes-là. Je vais les fortifier parce qu'ils croient. Elles croient Dieu plus que le Pharaon. Fait que Dieu dit, je vais bénir leur maison. C'est assez extraordinaire quand même de voir comment Dieu n'exerce pas sa souveraineté de façon directe, mais par des intermédiaires. Alors, Pharaon est frustré de ça parce qu'il se dit, crime, d'abord, s'il enfante avant que les sages-femmes arrivent, bien, eux autres, chez les Égyptiens, on croyait que le Nil était un dieu, qu'il était le dieu de la source de la vie, un des dieux en Égypte. Et donc, en jetant le bébé dans le Nil déciderait qui doit vivre, qui doit mourir. Et donc, l'ordre est pas juste donné aux sages-femmes, mais à tous les hommes et femmes en Égypte, quand il y a un bébé qui naît, c'est un garçon, vous le pitchez dans l'eau. Et là, les petits-enfants vont être mangés par les bêtes, puis il n'y en a pas grand monde que le Nil va choisir de faire survivre, je pense. Et donc, pensez à ça, là. Mettez-vous, là, en Égypte, vous êtes le peuple juif. Vous savez qu'il y a une promesse qui a été faite à Abraham, que vous multiplieriez et que vous seriez bénis. Et que vous seriez une bénédiction pour les autres nations. Puis vous êtes là, en esclavage, on prend vos bébés, on les jette dans le Nil. Mettez-vous dans cette situation-là. Reculez un petit peu. Essayez de tenter, avec votre imagination, de reculer un petit peu puis de dire, Dieu a parlé, puis on dirait que c'est le contraire qui se passe. Quand Dieu a décidé de bénir, l'ennemi s'est levé pour détruire ce peuple-là. Tout au long de l'histoire, on voit une haine démesurée contre le peuple juif. Et nous, dans nos vies, on est souvent dépassés par la souffrance et les difficultés. Et la souffrance et les difficultés nous amènent à marcher par la vue et non par la foi. Et c'est comme ça que Satan vient voler notre marche avec Dieu. Et notre défi aujourd'hui, c'est de comprendre que croire en Dieu, le défi, c'est de croire en Dieu et regarder aux choses invisibles. Depuis le jardin d'Éden, la question qu'on doit poser et la question que Dieu nous pose, c'est « Qui t'a dit ça? Qui t'a dit que tu n'étais pas béni en Égypte présentement? Qui t'a dit que Dieu n'était pas fidèle à ses promesses? Qui t'a dit que si tu manges de cet arbre-là, blablabla? » Depuis le jardin d'Éden, l'homme doit se poser la question « Ce que je vois, ça ne ressemble pas à ce que Dieu a dit. Qui m'a dit que mon interprétation des événements? » Dans 2 Corinthiens 4, 8, Paul, il disait qu'il était pressé de toute manière, mais non réduit à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécuté, mais non abandonné, abattu, mais non perdu, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, verset 17, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors que par la vue, Dieu ne semble pas du tout dirigé. Alors que par la vue, Dieu ne semble pas du tout être le maître du monde. Qu'est-ce que les choses invisibles disent? Si Israël marche par la vue, là, que voit-il? Il voit du travail forcé, des bourreaux qui les maltraitent, une tentative d'infanticide, du mortier et des briques, des fours chauds, de l'esclavage, de la misère. Ce qui encourage le Juif à ne pas perdre courage en esclavage en Égypte en ce temps-là, c'est sa foi dans un Dieu qui ne peut mentir et qui est souverain sur le chaos, qui va finir. Il est en train de préparer quelque chose. Une personne de foi dit « J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire ». Une personne incrédule dit « Dieu ne fait rien ». L'histoire commence à tourner autour d'un personnage et de sa délivrance. On lit Exode, puis déjà on arrive à la fin du chapitre 1, au début du chapitre 2, puis on voit que Dieu va préparer un sauveur pour la nation d'Israël. Et dans la question, c'est qu'est-ce que Dieu a à sa possession? Comment est-ce que Dieu va le faire? Eh bien, il voit une femme. Une femme qui dit « Ça n'a pas de sens que j'aie eu un enfant pour le voir périr. Ça n'a pas de sens que je jette mon enfant ou qu'on je laisse faire ça. » Fait qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire une corbeille, elle va mettre l'enfant dedans, puis elle va demander à sa sœur, Myriam, la sœur du petit, « Myriam, de suivre. On ne sait pas si elle lui a demandé, mais moi, je pense qu'elle lui a demandé de. Mais en tout cas, Myriam s'est écrit que la sœur, elle, voulait savoir où c'est qu'elle allait, cette corbeille-là. Et elle restait dans les roseaux, puis elle regardait voir où est-ce que la corbeille était pour mener cet enfant-là. Elle ne veut pas que son enfant soit né dans le Nil, la maman, et la grande sœur veille sur la corbeille et s'assure que rien n'arrive à l'enfant. On ne voit pas Dieu. On ne voit pas Dieu directement intervenir, mais par l'intermédiaire d'une mère protectrice puis d'une sœur qui veille, on s'aperçoit que Dieu a une solution. Nous, c'est parce qu'on lit l'histoire d'après. On lit l'histoire après, puis on dit « Dieu était vraiment un maître dans cette situation-là, il a agi. » Et là, le bébé vogue tout près d'une place où la fille du Pharaon prend son bain. Hasard. Les incrédules d'un côté de la rive disent « Ben là, c'est juste un hasard. » Puis les croyants de l'autre côté de la rive disent « C'est merveilleux. » C'est merveilleux de voir ce qui est en train d'arriver. Mais en même temps, il y a un gambling qui est là parce que, dans le fond, la fille du Pharaon peut choisir de faire obéir à la loi comme son père l'a dit. On tue tous les enfants mâles. Ou le cœur de mère, parce qu'elle était avec ses filles. C'était qui qu'elle était avec ses filles, puis elle prenait son bain. Donc, elle n'avait peut-être pas encore eu de garçon. Fait que peut-être que c'était stratégique. Peut-être que la maman, même, elle l'a poussé, tu sais, la corbeille pour que ça arrive. Là, puis là, elle souhaitait, puis elle a gamblé 50-50. Que la fille soit l'exécutait l'ordre de son père, soit court-circuiterait ça par sa sentimentalité. Et finalement, elle a vu le petit gars, puis elle a dit « Oh, je le veux. » Puis là, la mère, la fille du Pharaon va faire, c'est qu'elle va protéger cet enfant-là, puis elle va demander, dans le fond, ça prendrait quelqu'un pour le nourrir. Fait qu'ils ont engagé la vraie mère pour nourrir l'enfant. Est-ce que c'est un hasard? Quand Dieu choisit de rester anonyme, oui. Mais on voit Dieu qui est là, puis qui va se préparer un sauveur dans la personne de Moïse. On sait que c'est l'histoire de Moïse, finalement. Dieu va utiliser une mère protectrice, la sensibilité de la fille du Pharaon, pour s'opposer à un plan morbide de tuer des enfants. Et la question qu'on doit se poser, c'est, Dieu voulait-il la mort des autres enfants hébreux? Répondez dans votre cœur. Parce que toutes les autres sont sûrement morts. Donc, les autres bébés nouveau-nés morts, est-ce que Dieu voulait leur mort? Si vous croyez que Dieu dirige tout méticuleusement, vous n'avez quasiment pas le choix de dire oui. Parce qu'il aurait pu l'empêcher. Si vous dites non, mon nom est disparu. Ah, il est là. Si vous dites non, ben, vous limitez sa puissance. Parce que s'il ne voulait pas, pourquoi il ne l'a pas empêché? Une petite anévrisme, un caillotin dans le cerveau de Pharaon, ça a été réglé. Ce n'est pas un très, très gros miracle de la part de notre Dieu. Hein? Il l'a fait avec un homme, il a endurci le cœur, puis il est mort d'une crise cardiaque, là, Nabal. Dieu est capable, comme ça. Donc, si ce n'est pas une question de puissance, tu sais, puis on lit le livre d'Exode, puis c'est comme, tabarouette, as-tu vu les miracles qu'il fait? Oui. Mais même dans le livre d'Exode, quand on voit les miracles, on va s'apercevoir qu'il va toujours agir, Dieu, en fonction de ce qu'il a. Et il s'est mis un homme à part qui était disposé à faire des miracles pour lui. Et c'est par son bâton ou par l'obéissance de cet homme-là que Dieu a pu faire des miracles dans le futur. Donc, Dieu travaille avec ce qu'il a. Je vais revenir là-dessus. Je veux juste qu'on réfléchisse un petit peu. Dieu a choisi... Et si Dieu choisissait d'intervenir, et là, je vais rentrer, puis dans l'application de mon message aujourd'hui, ça va être vraiment là, parce que c'est très pratique pour nos vies, à nous autres aussi. Si Dieu a le choix d'intervenir, il peut intervenir quand il y a de la place pour lui d'agir, un petit peu plus tard par rapport à ça. Dans cette histoire-là, on voit des femmes sages, ou des sages femmes, puis une mère qui se soucie de son enfant, puis une autre qui veut avoir un enfant mâle, masculin. L'homme, lui, il attend un sauveur qui va venir délivrer les gens de l'esclavage. Qu'est-ce que Dieu leur donne? Il leur donne un bébé. Je veux dire, Dieu, hello! On est esclaves. On se fait battre. On se fait tuer nos enfants. Et puis tu me donnes un bébé. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec un bébé? Dieu leur donne un bébé. L'homme, il y a une chose que l'homme attend souvent, c'est une solution toute formée. Et Dieu lui donne un processus. L'homme veut une forêt, puis Dieu lui donne une semence. L'homme, il s'attend à avoir une solution toute faite. Puis Dieu lui vient, puis il donne une semence, un bébé. Un petit bébé qu'il va falloir qu'il grossisse, qu'il grandisse, puis qu'il devienne le libérateur d'Israël. Nous, on connaît l'histoire d'après, on peut le dire. C'est Moïse qui était ce bébé-là dans la corbeille. Et lorsqu'il a l'âge de 40 ans, donc beaucoup de temps après, Dieu va venir et il va continuer. Mais en attendant, Dieu fait quelque chose. Et c'est ça, celui qui regarde aux choses invisibles sait que Dieu, pendant les périodes d'attente, il façonne quelque chose. Et il y a quelque chose que Dieu veut voir dans son peuple en Israël. Et Dieu agit quand il y a de la place pour lui d'agir. Et donc, chez les Israélites qui étaient esclaves, il y avait besoin d'avoir un espace pour que Dieu puisse agir. Vous savez où est-ce que je m'en vais avec ça? Exode 2, 23. Longtemps après, quoi? Le chapitre 1 avec l'histoire de la corbeille. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Des cris que leur arrachaient la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Et Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Et Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Beaucoup de temps après, qu'est-ce qui se passe? Dieu voit que le roi qui les a mis esclaves, qui a voulu contrôler les naissances, il est mort. Il regarde l'échiquier du monde, il regarde les décisions des hommes, puis il regarde aussi son Moïse qui est en train de grandir. Il regarde tout ça et il prépare un moment pour en sortir. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, que lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on est tenté, Dieu prépare aussi un moyen d'en sortir afin qu'on puisse supporter ces épreuves-là, ces tests-là. Donc, longtemps après, le roi meurt. Et il y a aussi quelque chose dans ce passage-là. Je vous laisse le trouver. Il y a d'autres choses qui agissent sur Dieu. Il y a deux autres choses qui agissent sur Dieu. C'est quoi? Sa compassion. C'est la compassion, son désir de répondre à ses promesses, on va dire. Mais quoi d'autre aussi? Ouais, l'alliance, compassion, tout ça, ça s'en serait un, mettons. Quoi d'autre? Qui a fait que pendant les 40 années, ça a grandi, cette affaire. Un espace pour Dieu, c'est quoi? C'est dans le texte. OK, le roi d'Égypte meurt, il y a des événements qui se passent, ça permet à Dieu d'agir. Quoi d'autre? Qu'est-ce qui permet à Dieu dans ce passage-là d'agir aussi, à part son alliance? Les gens qui poussaient des cris. On a vu ça à Sodome et Gomorre aussi. À un moment donné, Dieu dit, « Hey, sais-tu quoi, les cris des gens qui souffrent à Sodome est monté jusqu'à moi, je vais venir et je vais agir. » Et donc, Dieu, il nous a donné le monde en délégation. Il a donné au roi de Sodome, il a donné à Pharaon, il a donné des autorités, puis il nous donne à nous, les hommes, un monde à gérer. Mais quand nous, on crie à lui, le grand souverain, on l'invite à venir agir dans notre histoire. Et là, les cris qui sont poussés à Dieu, les prières répétées qui sont envoyées dans les cieux à notre Père, permet à Dieu d'agir. Tu dis, oui, mais il est tout puissant. Oui, mais lui a choisi de répondre à la foi des hommes. Et c'est là qu'on va, passer le reste de notre message. Et je veux dire ceci, Dieu ne fait rien qu'en réponse à la prière. Peu importe la situation que vous trouvez problématique ou que par la vue, elle ne semble pas du tout mener ou ce que Dieu vous a fait des belles et précieuses promesses. Est-ce que vous persévérez dans la prière? Combattez-vous dans la prière pour voir ce que vous pensez que vous avez vu dans les Écritures, les promesses d'un Dieu fidèle qui ne peut pas mentir, s'accomplir. Et donc, c'est important parce que Dieu aurait pu, paf! Pas donner un bébé, premièrement, empêcher le meurtre des enfants, puis amener son peuple, pfiou, les sortir d'Égypte. Mais il avait besoin de voir chez son peuple ceci. Pas qu'il voulait les voir souffrir, mais que dans la souffrance, ils puissent aller à Dieu pour pousser des cris. Le royaume de Dieu a besoin d'hommes et de femmes de foi qui invitent Dieu dans l'action et qui croient que leur foi et leur patience font la différence avec Dieu. Croyez-vous que vos prières persistantes et persévérantes pour n'importe quelle situation fait que votre foi a un impact sur Dieu et lui permette d'agir? Vous me dites, tu me montres ça dans la Bible que c'est écrit, je vais te le montrer. Que Dieu ne peut agir qu'en réponse à la foi et à la prière. Maintenant, tournez dans le Nouveau Testament avec moi, si vous voulez bien, dans Matthieu au chapitre 1. Vous avez aussi Luc chapitre 1 pour votre lecture personnelle. Aujourd'hui, il y a un parallèle qui est intéressant entre... qu'est-ce qu'on a ici? Ah, regardez le passage dans Hébreux 6. « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. » Je suis certain que beaucoup d'entre nous, on n'obtient pas ce qui nous a été promis, et pourtant, c'était réservé pour nous. À cause qu'on n'a pas persévéré, et parce qu'on n'a pas eu la foi, on n'a pas reçu les promesses qu'on devait avoir en héritage. Je suis sûr qu'on va arriver au ciel, il va y avoir un département, ça va s'appeler le département des bénédictions non réclamées. Ce Dieu-là qui peut agir, qui veut agir, va donner et va donner un héritage à ceux qui, par la persévérance et la foi, héritent des promesses. On va parler de la naissance de Jésus. On arrive dans le temps des fêtes, bientôt, dans un mois. C'est Noël. Et dans ces deux histoires-là, on voit un parallèle assez étonnant. On voit deux rois qui font un édit. Des parents qui répondent à cet édit-là ou à ce décret-là. Un roi insécure qui veut faire tuer des enfants et un plan de massacre, finalement, pour des enfants naissants. Dans Exode, qu'est-ce qu'on voit? Dieu a choisi d'œuvrer par des gens faibles, une sage-femme, des sages-femmes, la mère de Moïse, la petite sœur de Moïse, la fille du Pharaon. Dieu utilise des gens comme ça. Dans Matthieu ou dans Luc, qu'est-ce qu'on voit? On voit un jeune couple, elle a à peu près 14 ans, Marie. Pas vieux, là. Ça n'a pas grand-chose dans la vie, là. Quand elle est allée offrir l'offrande, c'est l'offrande du pauvre, là, au huitième jour, quand Jésus est né, c'est des tourterelles qu'elle allait offrir en sacrifice. Pourquoi? Elle n'avait pas un rond. C'est un jeune couple, fragile, en plus, à risque d'avoir une très mauvaise réputation. Donc, on s'aperçoit que Dieu prend des gens faibles comme ça, puis fait son plan. Certains vont dire que Dieu agit de façon unilatérale. Marie, elle n'a pas eu le choix. Il a fallu qu'elle ait le bébé. Pourtant, dans Luc 1, du verset 26 au verset 34, on s'aperçoit que l'ange Gabriel lui apparaît, lui annonce qu'elle va porter le fils. Et après, elle s'ostine un petit peu avec lui. Ça ne se peut pas. Je n'ai jamais connu d'homme. Puis là, il y a une discussion. Puis l'ange ne lui reproche pas du tout. Puis à la fin, elle dit, « Bien, OK, d'abord, qu'il en soit fait comme que tu me l'as dit. » Elle l'accepte. Elle le questionne, l'ange lui répond que le Saint-Esprit va venir, va la couvrir et qu'elle va enfanter le Fils de Dieu. Et elle dit, c'est au verset 38 dans Luc 1, qu'elle lui dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc, dans cette histoire-là, on voit que Marie doit donner un assentiment, c'est-à-dire une réponse à l'œuvre de Dieu dans sa vie. Si Marie aurait dit non, où la mère de Moïse aurait laissé son fils se noyer dans les eaux du Nil. Qu'est-ce que Dieu aurait fait? Dieu aurait fait avec ce qu'il a. Il fallait que le fils de Dieu naisse de la généalogie de David. Ça lui aurait pris donc une autre fille vierge qui aurait accepté, qui aurait été descendante de la lignée de David. Dieu, il est souverain, puis il est capable de trouver un moyen d'agir. Trouver quelqu'un à sa disposition, un peu comme il a dit à Esther, Mardochée, il a dit à Esther, « Esther, regarde, tu vas te présenter devant le roi, il va peut-être te trancher la tête, tu sais. Mais qui sait si ce n'est pas pour cette heure-là que tu parais pour être une reine, tu sais. Fait que, puis si tu ne le fais pas en passant, Dieu va faire venir la délivrance d'un autre. Puis toi puis ta famille, vous allez périr. » Esther 4, verset 4. Et donc, Dieu est souverain, c'est-à-dire qu'il est capable de trouver à sa disposition quelqu'un d'autre qui veut faire quelque chose avec lui, qui veut embarquer dans l'aventure. Et je crois sincèrement que si quelqu'un choisit de se retirer, Dieu peut prendre quelqu'un d'autre puis l'ajouter à sa place pour la chose qu'il voulait faire, puisqu'il est souverain. Mais ça n'enlève pas la valeur de chacun d'entre nous. Mais ça nous challenge, par exemple, à savoir Est-ce que je veux être couvrier avec Dieu dans cette aventure que Dieu nous a donnée, d'être son épouse sur la terre, le corps de Christ? Donc, quand Joseph va apprendre que sa blonde est enceinte, il va dire, sais-tu quoi, on arrête tout ça là, c'est une grosse joke là. Il dit, on va paraître pour des fornicateurs, que c'était très grave. Et donc, les gens vont penser qu'on a été dans le péché. Puis en plus de ça, tu me dis que c'est le Saint-Esprit, moi je pense que tu es allé voir ailleurs. Fait qu'il y avait vraiment un conflit. Il pensait qu'elle lui était infidèle, mais Dieu va intervenir, puis il va venir communiquer à Joseph que non, Marie, c'est une bonne chose là. Elle couvre hier avec Dieu, et Dieu est en train de commencer quelque chose de beau dans la vie de Marie, puis qu'il ne doit pas marcher par la vue, mais qu'il doit accepter qu'il y a des choses dans l'invisible qui se passent. Et là, il a passé de opposant, parce qu'il ne savait pas qu'est-ce que Dieu faisait, à il a vu qu'est-ce que Dieu faisait, puis il est devenu collaborateur. Puis toute l'histoire, après ça, on voit que Dieu va parler à Joseph, puis il va lui dire, sais-tu quoi, n'aie pas peur de la prendre pour femme. C'est drôle comment Dieu choisit quand même l'apparence du péché pour venir dans le monde. Ça s'ajoute au quatrième scandale. Ça serait un quatrième scandale dans la lignée du Messie. Premièrement, Tamar, qui n'est pas capable d'avoir d'enfant, se fait passer pour une prostituée, couche avec son beau-père, hein? Judas. Rahab, la prostituée, je vais faire attention avec mes doigts. Rahab avec la prostituée qui est aussi la grand-mère de David. Bathsheba, qui est une femme que David va la faire tuer son mari pour couvrir un adultère et va finir par avoir un enfant qui s'appelle Salomon, qui va être aussi dans la lignée du Messie. Et puis là, Jésus, qui est né en dehors du mariage, entre guillemets. Et pour Dieu, les apparences, ce n'est pas ça qui est important. Même quand il parle de Sarah, dans 1 Pierre 3, il dit aux femmes d'imiter Sarah. Pas avec la parure extérieure de la beauté, mais avec l'obéissance qui est à l'intérieur. Dieu, ce qui compte, là, c'est pas ce qui paraît à l'extérieur, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, ça paraît être un enfant de fornication. Jésus est correct avec ça. Et puis le Père aussi, le conseil de la Trinité dit, on embarque. C'est un bon plan. Fait que ça commence. Les mages arrivent, puis imaginez le choc de Joseph quand les mages disent, hey, c'est-tu quoi, on est allé à Jérusalem, puis on est allé demander où est le roi des Juifs qui devait naître. Hey, t'aurais dû voir ça, Joseph. Toute la ville était en émoi. Là, écoute, Hérode, il ne peut pas se contenir. Parce qu'Hérode était appelé le roi des Juifs, parce qu'il avait fait reconstruire le temple, puis il était favorable aux Juifs. Sauf que c'est un fou. Il a tué sa femme puis ses enfants pour être sûr qu'il n'y avait pas de rival pour le trône. On l'appelait le roi des Juifs, puis là, il dit, quand il aurait demandé... Et où le roi des Juifs qui vient de naître, il est viré fou. T'sais. C'était quasiment un certificat de mort de notre Seigneur Jésus quand ils ont dit ça. Fait que là, t'imagines Joseph, il entend ça, puis Marie entend ça. Hérode. Et là, Dieu va dire, OK, j'ai quoi à ma disposition? Je vais mettre des rêves. Fait qu'il va mettre des rêves dans la tête des mages, puis dans le rêve, ça va dire, ou le songe, est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Si jamais vous pourriez m'amener de l'eau, j'apprécierais. Dieu va utiliser un songe, puis il va dire aux mages, retournez pas par le même chemin, parce que Hérode qui en veut à la vie de l'enfant, il s'en vient par là, fait qu'ils vont passer par un autre chemin. Puis, divinement averti en songe aussi, Joseph, il va avoir un songe qu'il faut qu'il s'en aille en Égypte. En tout cas, c'est pas un message sur Noël, fait que j'ai pas parlé des multiples rois mages qui sont venus. Mais Dieu... Comme un habile joueur d'échecs, regarde les coups de son adversaire et va intervenir par des songes, va intervenir par des rêves pour sauver la vie des mages, pour sauver aussi la vie de notre Seigneur Jésus. Et là, les soldats vont arriver peu de temps après et vont tuer tous les enfants de 2 ans. Parce que là, rendu dans cette partie de l'histoire-là, parce que nous, on lit tout dans un pain. On pense qu'il y a quelques jours, Marie est allée offrir le sacrifice, puis que là, les mages arrivent. Tout ça. Non, il s'est passé 2 ans. Ils habitent dans une maison. Ils ne sont pas retournés à Nazareth. Et l'enfant a à peu près 2 ans lorsque ça se passe. Ils sont dans une maison quand les mages arrivent. Hein? Fait que la crèche, là, ça ne marche plus. Et qu'est-ce qu'on voit? Matthieu va dire, « Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par le prophète, on a entendu des cris à Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Alors, il y a un massacre. On parle à peu près de la démographie de ce temps-là. À Bethléem, il y avait à peu près 20 enfants en bas de 2 ans, selon les études qui ont été faites. Fait que c'est normal que ça n'ait pas fait les grosses nouvelles. Surtout dans un temps où si tu ne voulais pas de ton enfant, tu peux le jeter dans le dépotoir. Tu peux juste le tuer. Juste le mettre là. Les Romains, dans le fond, là, avant notre Seigneur Jésus, là, dans cette période-là, c'était comme, tu n'aimes pas ton enfant, tu n'en voulais pas, t'en as un de trop, jette-le dans le dépotoir. Fait que, aujourd'hui, on dit, hey, s'il y a eu un massacre d'enfants, comment ça se fait que ça n'a pas fait les nouvelles? Ça n'a pas fait les nouvelles parce que c'était chose commune de tuer des enfants aussi. Puis parce que c'était une petite ville, puis il n'y avait pas beaucoup d'enfants nécessairement. Mais on dirait que dans ce passage-là, c'était prophétisé d'avance que les enfants se feraient massacrer. Or, ce n'est pas une prophétie. Même s'il dit ici, Matthieu, que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, quand Jérémie en parle, il parle de quelque chose d'historique qui s'est passé, que lorsqu'il y a eu la déportation, maman, elle ne voulait pas être consolée parce qu'elle voyait son fils partir en déportation et elle savait qu'elle ne le reverrait plus jamais. Les femmes ne sont pas à Rama. C'est à Bethléem, ce n'est pas la même ville du tout. À Rama, les femmes perdaient leur fils et savaient qu'ils ne le reverraient plus jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est accompli prophétiquement la même émotion, c'est-à-dire des femmes qui savaient qu'ils ne reverraient plus jamais leur enfant puisqu'on leur avait enlevé. Donc, ce n'est pas un accomplissement prophétique d'événements, mais on pourrait dire de ce que les mamans ont vécu avec leurs enfants, qui est très semblable. Et Matthieu, il veut faire un parallèle ici pour nous montrer que la douleur qui avait été ressentie, c'est aussi la douleur que les femmes de Bethléem ont vécue. Matthieu, juste 2 versets avant, dans le verset 15, il dit « Il y resta en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Osée 11.1. Et cette prophétie-là, encore une fois, ce n'est pas une prophétie. Lorsque vous regardez dans Osée 11, ça ne disait pas que le Messie serait amené en dehors d'Égypte. Ça parle que dans le temps où ce que le roi était mort, Dieu, le roi d'Égypte était mort. Dieu avait pris le peuple d'Égypte et l'avait sorti du peuple d'Égypte. L'histoire qu'on a vue tantôt, quand le roi est mort, il s'est passé quelque chose, il est sorti. Donc, dans cette histoire-là ici, on ne voit pas nécessairement que Dieu annonce un massacre d'enfants d'avance, mais que des circonstances semblables qui se sont passées en Exode se passent aussi à la venue. La même haine de Satan contre l'œuvre de Dieu se passe encore dans cette histoire-là. Et là, c'est écrit, quand le roi Hérode meurt, Dieu dit qu'il peut prendre Jésus et ses parents et l'amener en Israël à nouveau, ou le faire sortir d'Égypte. Dieu regarde ce qui se passe dans l'histoire des hommes, puis il dit, OK, le gars qui en voulait à la vie de Jésus, il est mort. OK, on joue aux échecs. Parfait. Joseph, Marie, vous pouvez revenir en Israël. Dieu agit avec qu'est-ce que l'homme va faire. Et l'or, il y avait de l'or qui avait été apporté, et Dieu dit, j'utilise qu'est-ce que j'ai. Et qu'est-ce que Dieu avait à sa disposition? Des rois mages avaient amené de l'or. Bien, l'or a servi pour Jésus et ses parents de vivre en Égypte tout ce temps-là. Dieu utilise qu'est-ce qui est à sa portée, et ce qui est à sa portée, c'est qu'il y a des gens qui croyaient et ils ont amené des offrandes, et ces offrandes-là ont permis au Seigneur Jésus de pouvoir survivre en Égypte. L'œuvre de Dieu faite dans le temps de Dieu ne manquera pas de la provision de Dieu. Mais là, Jésus a dû vivre avec une réputation d'être le fils de fornication. Oh, le fils de Marie. Hein? Quand on l'appelle fils de Marie, là, c'est pas nécessairement quelque chose de... Surtout ceux qui venaient de son village, admettons. Okay? Dans Jean 8, on dit, Jésus dit, vous faites les œuvres de votre père. Et lui dire, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Sac! Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire ici? Jésus, il essaie de leur dire que leur père, c'est le diable parce qu'il essaie de le mettre à mort. Puis eux autres, ils se défendent en disant, nous, on n'est pas des enfants illégitimes, nous, ou on n'est pas des enfants de fornication. OK? Wow! Alors, si vous seriez dans la foule puis vous verriez ce fils de Marie-là, vous avez entendu dire que c'était un fils illégitime parce qu'il est né d'un mariage. En passant, ça, c'est ce que les gens disent. Okay? Dieu, toute personne qui est née même d'un viol
a de la valeur à ses yeux. Okay? Fait que, ça, c'est clair. Que ce soit clair entre nous, au cas où que vos parents n'étaient pas mariés quand ils vous ont eu, ça n'a rien à voir avec le message d'aujourd'hui. D'accord? Ça, c'est important. Là.
Donc, on revient dans le message. Nous, on n'est pas ça, tu sais. Mais celui qui est dans la foule, puis entendu dire, lui qui marche par la vue, lui qui... je trouve que les oui-dire, puis les choses, que les interprétations de la réalité que les autres font, s'ils n'ont pas une marche avec Dieu, elle vient nous corrompre aussi. Et donc ici, dans ce passage, celui qui marche par la foi, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, il entend dire que Jésus est un enfant illégitime. Celui qui marche par la foi vit de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Ah, il me semble qu'il y avait un passage dans Ésaïe 7, 14 qui disait la jeune fille vierge, parce que dans l'original, c'est une fille en âge d'avoir des enfants, mais qui n'a pas encore couché avec un homme. C'est ça le mot hébreu d'origine. Dans Ésaïe 7, 14, celui qui ne marche pas par la vue, mais qui marche par la foi, vit de la parole de Dieu. Et donc, il a entendu à quelque part que le prophète Ésaïe avait dit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la jeune fille deviendra enceinte et elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Donc, celui qui marche par la vue croit que Jésus est un enfant de prostitution ou un enfant de fornication. Mais celui qui marche par la foi dit, c'est pas ça qu'Ésaïe avait dit dans Ésaïe 7, 14, que la jeune fille vierge aurait un fils et que ce serait notre sauveur. Hein? Jésus, il a accepté, lui, de passer pour un fils illégitime, entre guillemets. Dans Matthieu 13, au verset 54, là, il est rendu dans son village. Ça me fait penser à ce verset-là. S'étant rendu dans son village, dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendaient étaient étonnés. Ils disaient, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Écoutez bien, verset 55. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? N'est-ce pas le petit gars qu'on voyait jouer dans les rues quand il était kid? Jacques, Joseph, Simon, Jude, au moins quatre frères, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs, au moins deux, ça fait six, il était au moins sept. Ne sont-elles pas tous parmi nous dans le village? D'où lui viennent ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute, mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Vous m'avez demandé tantôt, c'est-tu vrai ça que si on n'a pas la foi, ça empêche Dieu d'agir? Et je vous ai répondu, je vais vous le dire plus tard. Ben, c'est moi qui avais dit ça. Ben, regarde ici, Dieu, Jésus, ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. La familiarité, prendre pour acquis ce que je vois par la vue, plutôt que d'être une personne de foi, aller voir les promesses de Dieu dans la Bible, m'accrocher à ce Dieu des promesses-là, puis de le chercher comme le peuple d'Israël avait besoin de faire lorsqu'il y avait un massacre, qu'il y avait l'esclavage, qu'il y avait toutes ces choses-là, il y avait besoin de se rappeler qui Dieu était. Mais ceux qui étaient là, il y avait besoin de se rappeler Ésaïe 7, 14, ça se peut que Jésus, là, bien, ça se peut que ce soit celui qui était promis puis qui est né d'une vierge. T'sais. Ils ne pouvaient pas faire beaucoup de miracles dans ce lieu-là à cause de leur incrédulité. Et Dieu ne peut pas faire des miracles dans ta vie et dans la mienne s'il ne trouve pas dans ton cœur un homme et une femme qui marchent par la foi et non par la vue et qui s'accrochent aux promesses que Dieu lui a faites et qui, par la persévérance et la foi, obtiennent les promesses qui lui sont réservés. Est-ce que Dieu est incapable d'agir? Est-ce que Dieu refuse d'agir? Dieu n'agit pas en présence de l'incrédulité. Un des derniers géants de la terre promise, ce n'était même pas les grands géants, c'était de croire que Dieu leur avait promis quelque chose qu'il ne pouvait pas leur donner. C'était ça le grand géant. Vous vous rappelez à la terre de Canaan? Il y en a 10 qui sont revenus, qui ont dit, les géants sont trop grands. On a de l'air des sauterelles. On ne pourra pas y arriver.
Il y en a 10 qui ont dit ça. Puis il y en a 2 qui ont dit, non, si Dieu a dit, Dieu est plus grand que les géants. Le dernier géant qu'ils avaient à traverser, c'est leur incrédulité. Et ils ont eu raison. Ils n'ont pas pu avoir de succès parce que Dieu, c'est en réponse à la foi qui donne la victoire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple a décidé de croire eux, plutôt de croire les deux. Qui a eu ce qu'il voulait? Les deux, mais 40 ans plus tard. 40 ans, ça a pris avant d'obtenir ce qu'ils avaient. Un petit délai, en effet. Puis tous les enfants qui n'étaient pas en âge de refuser cette bénédiction-là ont pu y entrer aussi plus tard. Mais j'aimerais dire que moi, si je suis un parent, si je ne marche pas par la foi, mes enfants vont payer la facture. Si je suis un pasteur, je vais amener du monde avec moi dans mon manque de foi aussi. Mais l'inverse est vrai aussi. Si je marche par la foi, je vais aussi offrir un challenge à mes enfants de marcher eux aussi avec ce Dieu-là. La foi, en fait, tout le monde a eu raison. Les deux qui ont dit on peut y aller, puis on va avoir la victoire, ils ont eu la victoire, mais 40 ans plus tard, ils ont vécu avec le peuple de Dieu les souffrances de ceux qui avaient été écrits eux. Mais les autres aussi, les 10, puis tous ceux qui ont cru les 10, que c'était trop grand, puis c'était trop inaccessible, ils ont eu raison. Puisque leur manque de foi leur a donné exactement ce qu'ils avaient demandé, ce qu'ils s'attendaient de la part de Dieu. Qu'est-ce qu'ils s'attendaient de la part de Dieu? Ceux qui ont dit que ce n'était pas possible de l'avoir, ils s'attendaient à quoi? À rien. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Rien. Je conclue simplement avec les principes qu'on a vus ce matin. Je les relis tout simplement. Premier principe, un des principes qu'on a vus, c'est l'homme sans Dieu fait des plans sans le consulter. On a vu avec Pharaon qui faisait des plans, tout ça, ça avait de la sage aux yeux humains, mais il n'avait pas consulté Dieu et il est devenu même un opposant à Dieu. On a vu Hérode, la même affaire. S'il arrêtait juste un petit peu voir, lui, là, quand il a dit, allez voir les prophètes, c'est où exactement qu'il doit naître? Est-ce que c'est parce qu'il voulait aller l'adorer? Il a dit que c'était pour aller l'adorer, mais c'était-tu vraiment pour aller l'adorer? Non, il voulait savoir dans la parole où c'est que c'était promis que ce Messie-là était pour venir parce qu'il voulait le tuer. Mais s'il avait juste cherché Dieu et à connaître Dieu, il aurait fait des plans, il aurait inclus Dieu dedans, puis il aurait dit, Dieu, c'est-tu la bonne chose que je fais là? Son plan serait devenu folie, puis il aurait découvert qu'il était un opposant même à notre Seigneur Jésus. Les gens du village de Jésus de Nazareth, voyons là, ces petits culs qu'on a vu jouer là, depuis qu'il est jeune avec ses frères, ses sœurs, tout ça, là. Voyons donc. Par la vue, si l'homme il fait des plans sans consulter Dieu, Dieu ne peut pas agir. Notre défi, c'est de croire Dieu et regarder aux choses qui sont invisibles. Croire que Dieu est bon et que Dieu agit dans le temps. Aussi, juste comprendre ensemble. Dieu veut donner un sauveur, il donne un bébé. Pendant 40 ans, il se passe qu'on dirait qu'il n'y a pas de délivrance. Est-ce qu'on va flancher dans ces 40 ans-là? Ou on va dire, non, sais-tu quoi? Tu as promis que tu bénirais ceux qui descendent d'Abraham. Moi, je ne te lâcherai pas, Seigneur, jusqu'à ce que tu m'aies béni. Donc, nous, on veut une forêt, on a vu ça. Dieu nous donne une semence. Dieu n'a pas sauvé les enfants du massacre de Bethléem. Dieu n'a pas sauvé non plus les enfants hébreux. Mais celui qui regarde à ce qui est invisible, il n'arrête pas juste à cette histoire-là qui s'est passée. Il essaie de regarder le gros portrait et il dit, c'est-tu quoi? Si j'attends 40, 60, 80 ans, je m'aperçois que quand je lis le livre de l'Exode, je m'aperçois que Dieu avait beaucoup plus que sauvé 20, 30, 60 enfants d'un massacre d'enfants, il allait sauver une nation en entière du peuple de l'Égypte en envoyant Moïse. Celui qui regarde à ce qui est invisible comprend que Dieu travaille à une délivrance, mais il a, même si la vue lui laisse montrer autre chose, la promesse à Israël d'être une nation prospère et d'être sortie de l'esclavage, ça va fonctionner. Le royaume a besoin d'hommes et de femmes de foi qui invitent Dieu dans l'action et qui croient que leur foi et leur patience fait la différence avec Dieu. C'est pas mal ça. J'avais un autre point, mais ça a été bien dit durant mon message. On ferme les yeux ensemble. Dans le passage qu'on a vu aujourd'hui, on a vu deux choses importantes. On a vu une histoire dans l'Ancien Testament, mais on en a vu une dans le Nouveau Testament aussi. On a vu, mais on n'en a pas parlé, que quand Dieu a décidé de construire, quand Dieu a décidé de faire quelque chose, le malin ne suit pas longtemps en arrière pour détruire. L'appel, c'est d'être une femme, c'est d'être un homme de foi qui ne va pas faire des plans par la vue seulement, sans compter sur Dieu, sans compter Dieu dans son équation. Vous n'êtes plus des gens du monde. Vous êtes des gens de la famille de Dieu. Et Dieu vous appelle à sonder les Écritures pour comprendre ses promesses, les réclamer, puis de ne pas lâcher jusqu'à ce que vous voyez l'accomplissement de votre foi. Voulez-vous être des gens riches pour Dieu, qui saisissent et prennent les promesses qui leur ont été faites? Si oui, je vous encourage à persévérer dans la prière, d'être patient dans l'affliction, puis à vous réjouir dans l'espoir que Dieu ne peut pas mentir. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur Dieu, et je te prie que vraiment, dans ma vie, tu puisses trouver un homme qui ne regarde pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses invisibles sont éternelles. Au nom de Jésus, amen. On va terminer avec un chant.
Ce message vous a fait du bien? Vous en voulez plus? L'Église Grâce et Vérité vous offre un site web sur lequel vous trouverez des messages en audio, vidéo et beaucoup plus. Merci de nous honorer en les partageant sur les médias sociaux. Vous pouvez aussi laisser vos commentaires sur notre page Facebook ainsi que sur notre site web au www.graceetverite.org.